Jules Lermina, L'énigme, 1895. Après avoir brillamment servi la France pendant de longues années, M. de Morlaine, général de brigade, avait pris sa retraite. C'était un homme de 60 ans, encore vert, doué d'une exquise distinction, rappelant le type de ces anciens gentilshommes dont la parole était sacrée, dont la délicatesse n'admettait ni faux fuyant ni compromis quand il s'agissait de tenir un engagement. M. de Morlaine était veuf. C'était même la perte de sa femme Hortense, née Deschalets, qu'il avait engagé à renoncer à l'état militaire. Sa douloureuse tristesse s'accommodait mal de la vie active. Il avait renoncé à toute ambition et était venu s'installer auprès de Paris, à Vitry, dans une petite propriété où il avait trouvé le repos dont il avait besoin et s'adonnant à des travaux de jardinage et satisfaisant des goûts qu'il n'avait pas perdus pendant sa longue carrière de soldat. Son fils, Georges de Morlaine, âgé de 25 ans, avait été promu depuis peu au grade de lieutenant de vaisseau et, à l'époque où s'ouvre ce court récit, était engagé dans un grand voyage d'exploration. Le général s'était trouvé seul à un âge où, plus que jamais, l'homme a besoin de sentir auprès de lui une affection toujours en éveil. Le cœur refroidi, glacé par les regrets, éprouve de douloureuses angoisses quand autour de lui tout est vide et silencieux. Auprès du général vivait une vieille gouvernante, veuve d'un ancien soldat, un peu rêche, un peu grondeuse, heureuse de la domination qui l'abandonnait, et portant à M. de Morlaine, à son fils et surtout peut-être à la mémoire de la morte, une profonde affection, plus instinctive d'ailleurs que raisonnée. Il est ainsi des dévouements quasi brutaux qui s'imposent avec une sorte de violence. Germaine était sans douceur. Les soins qu'elle rendait à son maître étaient pour elle l'exercice d'un droit. Il lui appartenait. Son affection était un joug qui lui était enjoint de supporter, si lourd que le fit la bonté massive de cette créature inintelligente. Monsieur de Morlaine subissait d'ailleurs avec passivité cette obsession de complaisance inévitable, quand se produisit un événement qui devait changer singulièrement sa propre situation et celle de Germaine. Une de ses parentes éloignées mourut. Dans une lettre écrite au milieu des angoisses suprêmes, elle s'adressait à lui et le suppliait de recueillir auprès de lui sa fille, Marie Deltour, qui allait rester sans fortune et sans appui. M. de Morlaine n'hésita pas. Sans consulter Germaine, heureux peut-être d'agir d'après son initiative propre, il répondit aussitôt à la pauvre femme que sa fille était attendue. La diligence qu'il mit à cette bonne action en doubla le prix. Car Mme Deltour, avant de s'éteindre, eut l'ineffable satisfaction de savoir que le sort de sa fille bien-aimée était assuré. Seulement, dans sa précipitation, le général ne s'était point enquis de ce qu'était celle qui allait venir sous son toit. Aussi fut-ce avec une profonde surprise et une sorte d'effroi que M. de Morlaine vit arriver aux Petites Tuileries, comme il appelait sa propriété dans le pays, une femme aux allures distinguées, au visage frais et doux, Marie Deltour en un mot, âgée de 26 ans à peine et charmante sous ses vêtements de deuil. Germaine, irritée tout d'abord de n'avoir point été appelée à donner son avis, voua à la nouvelle venue une de ses haines d'autant plus âpres que toutes les circonstances en démontrent plus évidemment l'injustice. Marie Deltour, intelligente et modeste à la fois, prouva, dès les premiers temps de son séjour aux Petites Tuileries, combien elle était reconnaissante au général de la bienveillance qu'il lui témoignait. Elle se montra affable avec Germaine, respectueusement dévouée à M. de Morlaine, qui se prit bientôt pour elle d'une affection croissant peut-être moins vite cependant que l'antipathie de Germaine pour l'usurpatrice. Marie Deltour était blonde, ses traits fins, attristés par la douleur que lui avait causée la mort de sa mère, respiraient une placidité qui n'était point sans noblesse. Elle avait ce grand mérite d'être active sans brusquerie, toujours occupée et sans excès de mouvement. À son arrivée, Germaine lui avait soudainement cédé sa place auprès du général, comme si c'eût été punir celui-ci de sa dissimulation que de le priver des soins, ou plutôt des exigences, de sa despotique gouvernante. Le général se sentit entouré d'une atmosphère toute nouvelle. Cette robuste nature, un peu sauvage, comme tout ce qui s'enveloppe forcément de la rudesse militaire, s'amollissait, se civilisait au contact de cette affabilité toujours égale, indulgente aux caprices et souriante aux colères involontaires. Et comme le cœur était jeune, comme il y avait déjà 4 ans que Madame de Morlaine était morte, le général, un beau soir d'automne, alors que Marie soutenait résolument contre lui une lutte de tric-trac, M. de Morlaine posa nettement son cornet sur la table, se renversa en arrière sur son fauteuil, joignit ses deux mains, croisa les doigts, fit craquer les jointures, brouma 3 ou 4 fois, puis devenant, ma foi, rouge jusqu'aux oreilles, « Mademoiselle Marie, dit-il, voulez-vous que nous causions ?»« Pourquoi non ? » fit la jeune fille. « Le tric-trac vous fatigue ?»« Me fatiguer, moi, mais ça, je suis solide, me fatiguer, par exemple. » Il paraît que cette hypothèse lui tenait fort à cœur en ce moment spécial, car il se leva brusquement et fit quelques pas, affirmant par le redressement de sa taille et la netteté du coup de jarret et la vigueur qui lui restait. « Je n'ai pas voulu vous blesser, » dit Marie. « Je le sais bien, cher enfant, n'êtes-vous pas la bonté vivante ?»« Causons donc, puisque vous le voulez ?»« Ah oui, c'est vrai, j'ai dit que nous allions causer. »« Eh bien, allons !» Il répéta plusieurs fois ce mot « allons ». Mais il ne disait rien de plus. Marie le regardait en souriant, non sans quelque malice. Mais l'homme qui avait galopé en plein feu ne pouvait hésiter plus longtemps. Il reprit. « Pardonnez-moi cette question à brûle-pourpoint, mais comment se fait-il que, jeune et jolie et bonne comme vous l'êtes, vous ne songiez pas à vous marier ?» Marie baissa la tête et pâlit légèrement. Quand elle regarda de nouveau le général, il vit que ses yeux étaient humides. « Je vais vous répondre, » lui dit-elle de sa voix qui tremblait un peu. « Aussi bien je ne sais pas mentir et je vais vous dire toute la vérité. J'ai aimé, oui, et j'ai été aimé une fois dans ma vie, j'avais 20 ans. Mais celui que j'avais choisi et en qui j'avais mis toute l'espérance de ma vie m'a oublié et en a épousé une autre. « Ah, c'est mal !» s'écria M. de Morlaine. « C'est presque un crime !»« Oh, il faut être indulgent !» reprit plus doucement encore Marie Delcourt, dont le visage s'éclaira d'une expression de charité radieuse. « J'étais pauvre. Il était riche. Il était ambitieux, son intelligence lui donnait ce droit. Son père combattit son penchant. Alors il résista longtemps, puis il comprit ou crut comprendre que nous n'étions pas nés l'un pour l'autre. Et un jour il m'a dit adieu en me suppliant de lui rendre ma parole, me déclarant d'ailleurs que si je l'exigeais, il tiendrait ses serments. Je mis ma main dans la sienne et, le regardant bien en face, je lui dis « Obéissez à votre père. » Il partit et je ne l'ai plus revu depuis. Monsieur de Morlaine mordait ses moustaches avec colère. Cette simplicité dans le sacrifice l'enthousiasmait et l'encolérait à la fois. Voici tout mon pauvre roman, reprit Marie. Je ne me marierai pas, ma résolution est prise, et bien prise, je vous assure. Il y eut un moment de silence. Monsieur de Morlaine s'était assis de nouveau, enveloppant de son regard franc et honnête la tête charmante de cet enfant qui lui semblait héroïque. Puis ses lèvres s'agitèrent, mais il n'en sortit aucun son. Qu'avait-il donc à dire qui fût si pénible pour sa timidité? Quelques minutes se passèrent ainsi. Puis, comme prenant une résolution soudaine, M. de Morlaine plongea sa main dans sa poche, en tira son portefeuille qu'il ouvrit, y prit une lettre, et la tendant toute dépliée à Valérie Delcourt, « Lisez, je vous en prie, je n'ose parler, je suis un enfant, mais promettez-moi de me répondre en toute franchise. » Marie était redevenue calme. De sa main passée sur son front, elle avait écarté la douloureuse vision évoquée tout à l'heure. Elle prit la lettre. « Oh, si vous vouliez lire tout haut, dit le général, il me semble que j'aurais plus de courage. » Elle le regarda, curieuse, un peu effrayée peut-être. Puis elle reporta ses yeux sur la lettre et se mit à lire. Mon cher et bien-aimé père, était-il écrit, vous me comblez de joie en me consultant sur des projets qui sont pour vous d'un intérêt si grave et si touchant à la fois. Vous pouviez agir sans me rien demander, et certes vous connaissez trop bien le respect et l'amour que je vous ai voué pour supposer que je ne me fusse pas incliné devant la décision prise. Mais puisque vous m'appelez à l'honneur de vous adresser mes humbles et affectueux avis, je vous répondrai avec toute la franchise que vous réclamez de moi. Je ne vous cacherai pas qu'au premier moment j'ai éprouvé une impression de pieux chagrin en songeant qu'à ce foyer où se tient l'ombre de ma mère chérie, une autre pourrait s'asseoir à son tour. Mais lorsque, connaissant toute la hauteur de votre conscience, toute la noblesse de votre cœur, j'ai relu avec une respectueuse attention le tableau que vous me présentez de votre solitude passée et de votre bonheur présent, j'ai apprécié que celle-là seule était digne de remplacer auprès de vous ma chère et vénérée mère, qui avait su vous inspirer par son dévouement, par sa tendresse quasi filiale, l'attachement profond dont vous m'envoyez l'expression noble et franche. Vous craignez, dites-vous, que ce mot de belle-mère ne m'effraie. Si vous y consentez, j'y substituerai celui d'ami. Je vous veux heureux, et en ceci, vous êtes le meilleur et le plus sincère des juges. Elle est bien jeune, dites-vous. Votre cœur a 20 ans, mon père, et vous êtes de ceux dont les années grandissent le caractère et affinent la bonté. Je vous le dis donc en toute sécurité, demandez à celle que vous aimez si elle consent à devenir votre compagne et mon amie. Elle n'aura point de fils plus affectueux que celui qui lui devra le bonheur de votre existence. Et pour terminer, mon père, puisque vous me demandez en souriant mon consentement à votre mariage, je vous le donne et vous supplie de remercier et de bénir au nom de votre fils celle qui a su réveiller en vous ses aspirations de bonheur et de tendresse. » Cette lettre était datée de Shanghai et signée Georges de Morlaine. Marie Deltour, tremblante, laissait glisser le papier entre ses doigts. Le général, penché en avant, lui dit « Marie, voulez-vous vous appeler Madame de Morlaine ?» La jeune fille résista. Elle le devait, n'est-elle pas pauvre, isolée? Ne l'accuserait-on pas de captation morale? Elle songeait à Germaine, dont le regard pur pesait parfois sur elle comme une menace. Mais le général sut triompher de ses scrupules, de ses inquiétudes. Marie se rendit enfin, et 2 mois s'étaient à peine écoulés que dans la modeste église de Vitry, M. le comte de Morlaine épousait Marie Deltour. Près d'une année se passa, année de calme et de bonheur. Quand un jour, des cultivateurs passant sur la route virent appuyé contre la muraille d'un jardin un homme immobile. Le jour venait de se lever. Ils arrêtèrent, surpris, puis se décidèrent à approcher. L'un d'eux toucha l'homme, qui tomba lourdement à terre, tandis qu'un pistolet s'échappait de sa main crispée. Cet homme avait le crâne traversé d'une balle. C'était le comte de Morlaine, mort. Chapitre 2. Le comte était connu et aimé de tout le pays. Ceux-là même qui avaient découvert son cadavre avaient eu maintes relations avec lui. Aussi, quoique la sensibilité soit la moindre qualité de nos paysans, ce fut avec une douleur véritable qu'ils reconnurent le maître des petites Tuileries. Le doute était impossible. C'était un suicide. Comment cet homme, qui semblait à l'abri de tout souci, qui étant riche avait épousé la femme de son choix, comment avait-il succombé tout à coup à cet accès de désespoir? Était-ce donc un moment de folie? Ou bien existait-il dans la vie de ce bienveillant quelque secret terrible qui eût, à l'heure dite, pesé sur son cœur jusqu'à le briser? L'endroit où le corps avait été trouvé était distant de plus de 2 lieues des petites Tuileries. C'était sur le territoire de la petite commune de S. Le maire, aussitôt prévenu, s'était rendu sur les lieux. Un médecin parisien en villégiature avait consenti à l'accompagner. Mais les premières constatations ne laissaient ni espoir ni hésitation sur la cause physique de la mort. Le pistolet dont s'était servi le général était une arme moderne à 2 coups. Le canon avait été appuyé sur la tempe, le coup avait éclaté et la balle avait pénétré dans le cerveau. Il était évident que la mort avait été instantanée. On voyait seulement sur la peau mate un petit trou circulaire. Pas une goutte de sang n'avait coulé. Le général était correctement vêtu de noir. On eût dit que, dans le calme de son implacable résolution, il eût mis un soin particulier à s'habiller. Seulement, détail singulier, on retrouva à quelques pas de lui la rosette de la Légion d'honneur, comme si, d'un geste désespéré, il l'eût arrachée avant de se frapper. Une civière fut improvisée, le cadavre y fut étendu. Un drap fut jeté sur le corps, puis le funèbre cortège prit le chemin des petites Tuileries. Par respect pour le mort et aussi avec la généreuse pensée d'adoucir l'amertume du coup qui allait frapper Madame de Morlaine, le maire accompagnait les porteurs. 8 heures du matin sonnaient au moment où le triste convoi déboucha sur la route en face de la grille des petites Tuileries. À ce moment, Diane, la chienne favorite du général, qui était attachée dans la première cour, poussa un hurlement douloureux et, obéissant à cet instinct mystérieux que la science tente en vain d'expliquer, elle fit un effort désespéré, brisa sa chaîne, bondit par-dessus le mur de clôture et, s'élançant sur la civière, eût sauté sur le cadavre si on ne l'eût écarté. La vieille Germaine, de l'intérieur où elle vaquait aux occupations, avait entendu le cri de l'animal et était sortie vivement, saisie par ces pressentiments qui ont leurs racines dans de légendaires superstitions et que cependant l'événement allait tristement confirmer. Elle vit le cortège et, plongeant ses mains dans ses cheveux gris, elle s'appuya au mur, terrifiée et incapable de faire un pas, de proférer un mot. Le maire, qui se nommait Malraye, fit signe au porteur de s'arrêter, puis il s'avança vers Germaine. Celle-ci le regardait de ses yeux fixes, dilatés par l'épouvante. Le magistrat la connaissait, il savait l'attachement profond qu'elle portait à son maître. « Germaine, lui dit-il, du courage, c'est un grand malheur qui vous arrive. » Le visage de la pauvre femme se contracta, ses dents claquèrent et levant le bras, elle désigna la civière. « Qui donc est là ? » demanda-t-elle d'une voix à peine perceptible. « C'est votre maître, c'est le comte de Morlaine. Blessé ?» Le maire baissa la tête. « Mort ?» cria Germaine en se frappant la poitrine d'un coup violent. Puis, se redressant, elle courut avec une vigueur qu'on n'eût pas devinée en elle, écarta les porteurs, porta la main sur le drap qui cachait le cadavre, découvrit le visage du mort d'un geste brusque, puis se laissant tomber à genoux, éclata en sanglots. Cependant, le maire hésitait à aller plus loin. Il était dans le château une autre personne à laquelle il fallait porter ce coup terrible. Les plus courageux reculent devant ces sinistres obligations. On eût dit que Germaine devina ce sentiment. Car tout à coup, elle se redressa, passa sur ses yeux ses mains longues et sèches, et se tournant vers les porteurs. « Suivez-moi, vous autres, » dit-elle d'une voix rauque. Elle revint vers la grille et s'effaça pour laisser passer le cadavre. Maintenant, elle avait les yeux secs, elle était livide. Ses cheveux gris dénoués tombaient en désordre autour de son visage. Elle était effrayante, de désespoir concentré, et dans ses regards fixes passaient des étincelles furieuses. Il faudrait annoncer cette catastrophe. « À la Deltour !» dit Germaine avec un accent d'une brutalité presque sauvage. « Venez avec moi, monsieur Malleret, je m'en charge. » Elle montait déjà l'escalier. Le maire la suivait de près. Il redoutait que cette femme, que la douleur semblait rendre folle, ne frappât trop violemment la jeune comtesse. « Il faut prendre des ménagements, » murmura-t-il. Mais la vieille femme ne paraissait ni l'écouter ni l'entendre. Elle avait atteint le premier étage. Elle ouvrit une porte. C'était celle de l'appartement particulier de Madame de Morlaine. Sans frapper, sans prendre aucune précaution, comme si son désespoir la délivrait des devoirs de la domesticité, elle ouvrit une autre porte, celle de la chambre de la comtesse. La jeune femme était à demi étendue sur un fauteuil, dormant. Son lit n'était pas défait et sa pâleur semblait indiquer qu'elle avait succombé à la fatigue. Germaine alla droit à elle, et avant que le maire eût pu prévoir son mouvement, elle avait saisi Marie par le bras, et au moment où celle-ci, tressaillant, ouvrait les yeux, « Madame la comtesse !» cria la vieille femme. « Le général est en bas, mort, on l'a assassiné !» Madame de Morlaine poussa un cri terrible, se dégagea par un geste violent de l'étreinte de Germaine, vit Monsieur Malleret, et Hagarde épouvantée. « Mais qui y a-t-il » fit-elle. « Mort, mon mari, mais qui a dit cela ?»« J'ai dit assassiné !» répéta Germaine en frappant du pied avec violence. Mais le maire l'interrompant. « La douleur égare cette pauvre femme, dit-il. Madame, la douleur qui vous frappe est terrible. Monsieur le comte de Morlaine s'est suicidé. » La comtesse semblait foudroyée. Elle chancela et fut tombée à la renverse si Monsieur Malleret ne l'eût soutenue. Elle s'était affaissée sur son siège, les lèvres frissonnantes, ne trouvant pas la force de pleurer. Quant à Germaine, il semblait que les dernières paroles du maire l'eussent frappée d'une indicible surprise. Était-ce donc qu'en réalité la pensée d'un meurtre se fût tout d'abord imposée à elle, et que cette hypothèse d'un suicide lui parut injustifiable? Elle se retirait doucement vers la porte à reculons, tenant ses yeux obstinément fixés sur la comtesse. Celle-ci revenait à elle. « Pardonnez-moi, dit-elle au magistrat, mais cette nouvelle est si épouvantable que je puis à peine croire à ce que j'ai entendu. » Sa voix tremblait, on sentait les larmes prêtes à jaillir. « Il n'est que trop vrai, madame, reprit le maire. » Et en quelques mots, il raconta dans quelles circonstances avait été découvert le cadavre. Marie de Morlaine l'avait écouté sans l'interrompre. Quand il eut achevé, elle secoua plusieurs fois la tête, les yeux à demi fermés, les mains jointes, puis elle dit « Conduisez-moi auprès de mon mari. » Elle se leva. Maintenant de grosses larmes coulaient sur ses joues. Germaine s'était arrêtée immobile, debout auprès de la porte. Quand Marie passa devant elle, elle fit un geste pour lui tendre la main en murmurant « Ma pauvre Germaine !» Mais la servante se recula. Marie descendit, suivie de M. Malray. On avait porté la civière devant le perron, et les paysans, attendant de nouveaux ordres, la tête découverte, parlaient entre eux à voix basse. La comtesse parut, accueillie par un murmure de pitié douloureuse. Elle franchit les marches de pierre, puis s'agenouilla près du cadavre. Elle se pencha sur lui et l'embrassa au front, longuement, saintement. Au moment où ses lèvres touchèrent le visage du mort, Germaine, qui était restée auprès de M. Malray, laissa échapper une sorte de grondement rauque, et par un mouvement involontaire, sans doute, sa main se posa sur le bras du maire. Celui-ci la regarda, et voyant son visage décomposé, « Mais comment le général a-t-il pu se tuer, lui qui était tant aimé ? » dit-il. Elle lui lâcha brusquement le bras. Madame de Morlaine se releva, puis elle pria les porteurs de déposer le cadavre dans un salon du rez-de-chaussée. En quelques instants, seule, car Germaine sombre restait sur le perron, insensible en apparence à tout ce qui se passait autour d'elle, la comtesse avait disposé une sorte de chapelle funéraire. Elle pleurait et ne s'interrompait que pour essuyer les larmes qui mouillaient ses joues. Un des paysans lui dit « Voici le pistolet, madame. » Elle le prit, le considéra attentivement, puis le posa sur un meuble. Elle revint vers le cadavre dont la tête posée sur un oreiller se détachait plus pâle que la toile qui lui servait de cadre. La physionomie prenait peu à peu cette rigidité marmoréenne qui est la beauté de la mort. Les traits, fermes, s'accentuaient plus vigoureusement, mais en même temps s'épandaient sur eux comme une ombre de douleur et de bonté. Ainsi le masque semblait refléter l'empreinte des désespoirs inconnus qui avaient mis l'arme de mort aux mains de cet honnête homme. Tout à coup la comtesse s'écria, portant les mains à son front, « Mon Dieu, et son fils ?» Nul n'y avait encore songé. Ce mot résonna comme un glas de désolation. C'est qu'en effet, tous savaient l'amour profond qui unissait ces deux hommes. Chaque fois que le général passait à travers le village et qu'il causait avec quelques paysans, deux noms revenaient sans cesse sur ses lèvres, celui de sa femme et celui de Georges, mon bel officier, comme il l'appelait en souriant. Et voici que tous n'avaient pas encore été frappés. Il restait encore un cœur à briser. Et comme si elle eût reçu d'avance le contre-coup de ce désespoir, la comtesse sanglotait, moins forte peut-être à soutenir la douleur d'autrui que la sienne propre. Au même instant, et comme si le cri poussé par Marie eût été un signal attendu par la fatalité, le facteur rural parut sur le seuil de la porte. Il vit cette scène de mort et s'arrêta interdit. Un paysan lui dit quelques mots à voix basse. Alors l'homme retira sa casquette, puis dans sa sacoche, il prit une lettre et la tendit à M. de Malleret. « C'était pour le général, » dit-il. La comtesse avait jeté les yeux sur l'enveloppe. « C'est de lui !» s'écria-t-elle. « C'est de M. Georges !»« Et daté de Brest ?» fit le maire en frissonnant. « De Brest, mais alors il est de retour. Il sera ici demain, aujourd'hui peut-être. » Et elle frissonnait comme s'il eût été saisi par un froid glacial. M. Malleret cherchait en vain des formules de consolation qui lui faisaient défaut. « Pourquoi madame ne filie-t-elle pas ?» fit une voix rauque. C'était celle de Germaine, qui, entendant le nom de Georges, s'était rapprochée. « Mais ai-je le droit ?» demanda timidement madame de Morlaine en interrogeant le magistrat du regard. « Oui, n'étiez-vous pas la compagne, la confidente de notre pauvre ami ?» La comtesse prit la lettre, et de ses doigts qui tremblaient, elle déchira l'enveloppe. Puis quand elle eut jeté les yeux sur son contenu, elle dit tristement « Demain, Monsieur Georges sera ici. » Elle rendit la lettre au maire qui la lut à son tour. Elle contenait à peine quelques lignes. C'était avec un élan de joie, presque enfantine, que l'officier annonçait son retour. Si son service l'eût retenu, il fut parti sans perdre une minute, tant il lui tardait d'embrasser son père, et disait-il, son amie belle et bonne mère. « C'est bien demain qu'il arrive, n'est-ce pas ?» demanda Germaine. « Oui, demain, Monsieur Georges l'affirme. » Et elle ajouta, mais si bas que personne ne l'entendit, « J'attendrai. » Il fallut que madame de Morlaine répondît aux questions qui lui furent adressées par les magistrats accourus à la première nouvelle de la catastrophe. Le point important était de savoir quelles avaient été les dispositions apparentes du général avant la nuit fatale. Ses paroles... Quelques-uns de ses actes avaient-ils pu faire prévoir cette funeste résolution ? La comtesse répondit simplement, avec une évidente franchise. Jusqu'à cette sinistre explosion, elle savait, elle pouvait affirmer que le général n'était en proie à aucun chagrin. Cependant, elle ajoutait que dans la soirée précédente, il avait tenu à causer longtemps avec elle. Ils étaient restés ensemble jusqu'à une heure assez avancée de la nuit. M. de Morlaine semblait triste, préoccupé. Il parlait de son fils, de son avenir. Quand la comtesse était rentrée dans sa chambre, 3 heures sonnaient. Elle était épuisée de fatigue et s'était endormie dans un fauteuil à la place même où on l'avait trouvée le matin. « Mais, sur ma conscience, » ajoutait madame de Morlaine, « j'affirme que le général n'avait pas prononcé un seul mot qui pût me faire prévoir cette horrible catastrophe. N'eût-il dit qu'une seule parole ? » s'écria-t-elle, encore avec un accent désespéré. « Est-ce que je l'aurais quitté un seul instant, lui qui était plus que mon mari, qui était à la fois mon bienfaiteur et mon père ?»« C'est une énigme, » dit un des magistrats en se retirant. Ce que nul ne vit, c'est que à ce moment, comme si son cœur eût été prêt à éclater, Germaine s'enfuit jusqu'à sa chambre, et là, seule, prise d'une sorte de fureur folle, elle tendit le poing comme si à travers la muraille elle eût voulu frapper quelqu'un en s'écriant « Misérable femme, c'est le fils qui vengera son père !» Chapitre 3. Le suicide de M. de Morlaine restait inexplicable. C'était un homme de caractère facile, de relations agréables, montrant une gaieté douce. Les paysans disaient de lui « Il semble tout heureux de vivre ». En réalité, la mort de sa première femme avait été la seule douleur réelle de cette existence, partagée tout entière entre les devoirs de sa carrière et les affections de famille. Ses amis, et il pouvait appeler de ce nom tous ceux qu'il avait connus, étaient accourus aux petites Tuileries à la première nouvelle de la catastrophe. L'un d'eux, un vieillard, son ancien compagnon d'armes, le commandant de Samereuil, pleurait comme un enfant. « C'est un acte de folie !» s'écria-t-il. « Il y a 3 jours à peine, de Morlaine me parlait encore de son bonheur. Il avait joie à m'expliquer, avec la chaleur d'un amoureux de 20 ans, quelle nouvelle perfection de caractère, de cœur et d'intelligence il découvrait chaque jour en celle qui portait son nom. » Madame de Morlaine était, de la part de ses sincères désolés, l'objet d'une profonde estime, d'une affection quasi paternelle, car au milieu de ses têtes grises, elle semblait une enfant. Chacun, avec sa rude franchise, s'efforçait de lui donner quelques consolations. Elle, pâle, les lèvres serrées, ayant aux yeux une sorte d'affolement, répétait « Il était si bon, si bon !» Mais à toutes les questions qui lui étaient adressées sur les circonstances qui avaient précédé le suicide, elle ne pouvait que répéter ses premières réponses. Elle ignorait tout et n'avait pas entendu le général quitter sa chambre. Ainsi, pas un mot, pas un signe n'a pu vous faire prévoir cette résolution insensée. « Rien !» répondait-elle. On la pressait de rappeler ses souvenirs les plus insignifiants. Car, à moins de supposer que, dans un accès subit de délire, le général eût perdu tout à coup la notion des choses réelles, il était impossible que, fût-ce dans l'acte le mieux dissimulé, une femme aussi dévouée, aussi attentive que la comtesse, n'eût point remarqué quelque singularité à laquelle, sans doute, elle n'eût pas attaché d'importance au moment même où elle se produisait, mais dont l'évocation jetterait quelques jours sur cet irritant mystère. La comtesse secouait la tête et disait « Mais je ne sais rien !» Quoique, par égard pour Madame de Morlaine, et aussi en raison du prompt retour de l'héritier direct du général, auquel M. Malraux avait envoyé une dépêche pour hâter son arrivée, le juge de paix se vit abstenu de procéder à la formalité légale de la pose des scellés. Il avait pénétré, accompagné du maire et de Madame la Comtesse, dans la chambre du mort. C'était une grande pièce, éclairée par de larges fenêtres, à travers lesquelles entrait joyeusement le grand soleil. Peu de meubles. Le général avait coutume de dire « Ceci est ma tente, j'ai mon nid, la chambre de ma femme. » Cette chambre, d'une simplicité toute militaire, était garni d'armes de toutes sortes, et il fut facile de voir la place de celle que le suicidé avait détachée d'une panoplie. De la poudre et des balles se trouvaient sur une console. Il était évident que le pistolet avait été chargé délibérément, soigneusement. Du reste, aucun désordre. Sur le bureau de M. de Morlaine, point de lettres. Rien n'indiquait qu'il eût songé à prendre quelques dispositions suprêmes. Seulement, on remarqua que, dans le foyer, des papiers, des lettres sans doute, avaient été récemment brûlés. Le feu avait été attisé de telle sorte qu'elle ne formait plus qu'une petite masse noirâtre tombant en poussière. Le général ne s'était pas couché, ce qui concordait avec le récit de sa femme, qu'il avait tenu auprès de lui assez tard dans la nuit. Quel avait été le sujet de leur entretien? Madame de Morlaine ne pouvait fournir que des indications vagues. Ils avaient effleuré toutes sortes de sujets sans qu'aucun lui eût paru intéresser plus particulièrement son mari. Les bougies des candélabres avaient été brûlées jusqu'à la dernière goutte de cire. Monsieur de Morlaix n'était évidemment pas sorti sans songer à les éteindre, ou plutôt, il avait voulu que la lumière, vue du dehors par sa femme, dont la chambre, située dans une aile en retour, faisait presque face à la sienne, laissait supposer qu'il ne sortait pas. Comme tout le domestique de la maison se composait de la vieille Germaine, qui occupait une chambre sous les combles, et d'un jardinier faisant office de palefrenier qui dormait dans l'écurie, il était aisé de comprendre comment le général avait pu franchir la porte du jardin sans être vu. En résumé, ces observations, si minutieuses qu'elles fussent, ne pouvaient fournir aucune indication, l'énigme paraissait impénétrable. La vieille Germaine apparaissait de temps à autre au seuil des portes, silencieuse, les traits serrés, étirés. Elle suivait, sans y prendre part, les péripéties de l'enquête. Seulement, elle consultait sans cesse une grosse montre d'argent serrée dans sa ceinture, et lui arrivait de demander à voix basse s'il y avait bien loin de Brest à Paris. Elle attendait Georges. Les autres songeaient aussi à ce fils qui avait touché le sol français plein de joie et d'espérance, et que la douleur attendait au seuil de la maison paternelle. Ce qui semblait étrange à tous, c'est que le général n'eût point laissé pour lui ni pour sa compagne quelques lignes de suprême adieu. Monsieur de Samereuil remarqua que le portrait de Georges, qui était accroché auprès du lit de son père, s'était détaché de la muraille et était tombé à terre. Dans sa chute, le verre s'était brisé. Était-ce donc là un de ces bizarres symptômes dont la superstition attribue aux choses inertes les prophétiques manifestations ? La journée passa lentement. Les paysans venaient un à un saluer le mort. Chacun trouvait dans son cœur une parole de sympathique regret. Cet homme avait su conquérir l'affection de tous. Il y avait deuil vrai. La nuit vint. La comtesse désira rester auprès de celui qu'elle avait aimé. Monsieur de Samereuil obtint cependant l'autorisation de passer la nuit dans la maison. Il connaissait Georges et voulait se trouver là au moment même de son arrivée. Germaine n'avait pas insisté pour rendre à son maître ses derniers témoignages d'affection. On lui savait gré de sa douleur. « La pauvre femme ne lui survivra pas, » pensait-on. Il semblait en réalité que la mort eût posé sa griffe sinistre sur ce visage livide, où ne vivaient plus que deux yeux enfiévrés que par intervalles jetaient des éclairs sombres. Bien longues et bien tristes sont ces nuits de veillées funèbres. La comtesse, restée seule, s'agenouilla auprès du cadavre, et appuyant son front brûlant sur sa main glacée, elle pleura longtemps. Puis elle se releva, et dans la plénitude de sa douleur et de ses regrets, elle l'embrassa au front. Elle avait aux yeux une lueur d'amour immense et qu'il aurait épié dans cette solitude aurait vu qu'elle étendait la main vers le mort, murmurant des paroles insaisissables comme si elle eût préféré un serment. Chapitre 4. À la première heure, une dépêche avait été apportée aux petites Tuileries. Georges de Morlaine suppliait qu'on retardât la cérémonie mortuaire. Il arriverait à Vitry dans l'après-midi. Le trajet est long de Brest à Paris et de plus, sur la plus grande partie du parcours, il n'existe point de trains express. Sur la prière de Madame de Morlaine, on avait accédé à la demande de Georges. La maison était tendue de noir. Le corps placé dans le cercueil était encore à découvert et le visage du cadavre n'avait rien perdu de sa sérénité. Au contraire, la mort avait posé sur ce masque cette patine mate qui est la marque de la sédation suprême. Douleur ou terreur, tout était effacé. Restait la quiétude sévère de l'oubli, peut-être du pardon. Germaine n'avait point reparu, sans doute pour se livrer tout entière à sa douleur, ou plutôt, ce que nul ne savait, pour méditer je ne sais quelle vengeance dont la pensée lui poignait le cœur, elle s'était enfermée dans sa chambre. Madame de Morlaine, infatigable, soutenue par la fièvre des grandes douleurs, suffisait avec M. le commandant de Samreuil aux soins multiples nécessités par la funèbre cérémonie qui se préparait. Le général n'avait point de parents. Nulle convoitise ne venait jeter leurs notes discordantes dans cette harmonie de sincérité désolée. À tout instant, des voitures s'arrêtaient devant la grille et l'on voyait des officiers, les uns en bourgeois, les autres en grande tenue, apporter à leurs vieux camarades le dernier tribut de leur affectueux respect. Avis avait pu être donné à la place de Paris en temps opportun, et le peloton qui devait accompagner les restes du général à sa dernière demeure arriva à 3 heures. La cour était pleine de monde, et cependant pas une voix ne s'élevait. La singularité de cette fin subite et tragique mettait à toutes les poitrines une douloureuse étreinte. On s'interrogeait à voix basse. M. de Samreuil passait dans les rangs pressés, donnant de brèves explications, attribuant à un accès de fièvre chaude, à un désordre cérébral, cette résolution que nulle autre circonstance ne pouvait justifier. Tout à coup, il se fit un grand silence. On entendit sur la route le galop d'un cheval. L'animal, poussé avec une violence presque imprudente, faillit s'abattre devant la porte. Tous se découvrirent. C'était Georges de Morlaine, c'était le fils. Monsieur de Samreuil s'élança à sa rencontre et le reçut dans ses bras. Le jeune homme, dont les traits respiraient sous leur teinte bronzée et cette énergie que donne l'habitude du danger, s'appuya sur l'épaule du vieil ami de son père, et ne doutant plus, frappé en plein cœur par la foudroyante réalité que jetait à ses derniers doutes l'évidence des préparatifs funèbres, se mit à sangloter comme un enfant. « Du courage, enfant, du courage !» murmurait le commandant. Est-ce que le courage était possible? Il y avait 3 ans que Georges avait dit adieu à son père, et depuis ces 3 années, pas un jour ne s'était passé sans qu'il songeât au retour. Il semblait qu'il y eût entre ces deux hommes un lien autre que celui du sang. C'était comme une fraternelle amitié qui leur faisait commune les joies, les douleurs, les espérances et les désillusions. Lorsque Georges avait appris les projets du général, il n'avait pas hésité, on s'en souvient, à les approuver. Pas un instant, la jalousie, la crainte d'être moins aimé, n'avait effleuré son cœur. Il s'était souvent préoccupé de cette solitude à laquelle ses devoirs de marin l'avaient contraint de condamner son père. Il connaissait mieux que personne ce caractère qui, à toutes les énergies du soldat, joignait les faiblesses de l'homme. Il l'avait vu brisé par la mort de sa mère. Il savait qu'en perdant une compagne longtemps aimée, le général était resté comme un voyageur qui a perdu son chemin, se tourne inquiet aux 4 coins de l'horizon, ne sachant plus de quel côté il doit aller en avant, et quelquefois se laisse tomber sur la terre, découragé et abattu. Bien que la force morale de M. de Morlaine eût triomphé de cette première crise, pourtant il était à redouter que l'ennui, le désœuvrement ne le minasse peu à peu. Mais Marie Deltour était apparue tout à coup dans sa vie, lui tendant la main pour mieux l'aider à vivre, sans la connaître autrement que par les lettres quelque peu passionné du général, Georges avait deviné cependant que cette femme, jeune, jolie, se résignait par une de ces charités délicates dont les grands cœurs ont le secret à une œuvre de salut, de résurrection. Et du fond de sa conscience, Georges lui avait voué un respect reconnaissant dont l'expression, fréquemment renouvelée dans ses lettres, était douce au cœur du général. Lorsque celui-ci répondait à son fils, c'était pour lui détailler, avec la complaisance de l'homme heureux, les bonheurs sans cesse renouvelés de cette existence placide, tout ensoleillée du jeune sourire de sa femme. Georges avait annoncé son retour prochain. Depuis cette époque, aucune lettre de son père n'était arrivée jusqu'à lui. Il avait hâte de mettre le pied sur le sol de France. Il était prêt à demander un congé de quelques mois qu'il passerait au milieu de ses heureux auxquels il allait demander une part de leur bonheur. Et voici que sur ces espoirs si longtemps caressés, qui avaient grandi, qui avaient pris possession de tout son être, était tombée lourde, brutale, cette dépêche de M. Samereuil. Le général de Morlaine s'est suicidé. Si vous le voulez revoir encore, hâtez-vous. Le suicide. Ce mot avait frappé son crâne comme un coup de massue. Mais quel horrible mystère de douleur, de désespoir, s'était donc tout à coup révélé. Georges se sentait devenir fou, et il ne s'interrogeait pas encore. Ce voyage rapide s'était accompli dans la fièvre. Ces horribles surprises mettent au cerveau une sorte d'ivresse qui engourdit la pensée. Il avait dans la tête ce bruissement sinistre que la tempête jette aux oreilles du marin. Il ne doutait pas, il ne croyait non plus. En réalité, il était des instants où il oubliait pourquoi il souffrait. Et le souvenir ne s'était réveillé terrible, poignant, que lorsqu'il avait atteint Paris. Il avait couru chez un de ses amis, avait pris un cheval, puis au galop, éperonnant la bête au sang, il s'était élancé, continuant son rêve vertigineux. Et maintenant, tout à coup, cœur et corps brisés, il pleurait. Sut-il seulement comment il franchissait le perron, comment il marchait à travers cette large pièce éclairée par un pâle rayon qui filtrait à travers les rideaux à demi fermés. Il vit la bière ouverte. Il vit le visage livide et immobile, désolé, ébranlé jusqu'aux plus profondes assises de son être. Il ne pensait pas à l'embrasser. Il fallut que M. de Samereuil le poussât, le couchât, pour ainsi dire, sur ce cadavre. Alors il resta plusieurs minutes, souffrant un siècle de désespoir, les lèvres appuyées à un front de marbre. Enfin il se releva et regarda autour de lui. Madame de Morlaine se tenait à l'écart, enveloppée d'ombre, drapée dans son deuil. Il la considéra un instant, curieusement. Elle vint à lui, la main tendue, et à ce simple geste, il devina qui était cette femme. Il se rappela combien son père l'aimait, et sans voir sa jeunesse, il s'agenouilla devant elle en lui disant « Ma mère, ma mère !» Elle avait, elle aussi, de grosses larmes roulant sur son visage et dans son regard fixé sur ce fils, passait un rayon hagard et désespéré. Il lui serrait les mains et répétait avec une joie âpre cette appellation filiale. Monsieur de Samereuil avait presque peur. Ses douleurs confinaient à la folie. Elles étaient trop silencieuses et trop intimes. Il fit un signe aux hommes qui attendaient, et posant la main sur l'épaule de Georges, « C'est l'heure, dit-il, adressez un dernier adieu à votre père. » Georges se redressa, debout, tout d'une pièce. Une pensée subite venait d'éclairer son cerveau. « Non, 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 cria-t-il, pas encore. Je veux lui parler seul. Laissez-moi quelques instants avec lui. » Et d'un geste superbe, despotique, il chassa tous ceux qui l'entouraient. Madame de Morlaine comprit. Cette concession était nécessaire. Il fallait que ce désespoir s'émoussât par l'action, si insensée qu'elle fût. Elle prit doucement la main de M. de Samreuil et l'entraîna. Tous, silencieux, obéirent à cet ordre muet. La porte se referma. Georges se tenait auprès du cercueil ouvert. « Père, dit-il d'une voix sourde, je suis ton fils. Réponds-moi. Ils disent que tu t'es donné la mort, mais pourquoi ? Je veux te venger, il faut tout me dire. » Il se pencha sur le cadavre, si près que son visage effleurait la face marmoréenne. Sur les paupières qui laissaient filtrer le regard terne des morts, il glissait, lui, son regard vivant qui interrogeait en fouillant jusqu'au fond de ce cerveau inerte. « Dis-moi, quel spectre s'est tout à coup dressé devant toi ? De quelle horrible vision as-tu donc eu cette peur soudaine et mortelle ? Je te connais, tu avais le courage des âmes fortes. Et pour t'abattre, la fatalité a dû frapper ses coups les plus durs. Mais qu'as-tu vu face à face ? Un crime ? Qui l'a commis ? De quelle infamie t'es-tu donc senti tout à coup enveloppé, que tu aies voulu l'arracher avec les lambeaux de ta chair et de ta vie ? Père, père, tu t'es puni de la faute d'un autre. Quel est cet autre que je l'écrase à mon tour ? Il frissonna tout entier, et posant sa main sur cette poitrine où le cœur ne battait plus, sur mon honneur de marin, sur le souvenir de ma mère, je te jure, père bien-aimé, que je braverai tout obstacle pour arriver à l'ennemi qui t'a frappé, à l'infâme qui a mis en ta main l'arme de mort. Mon père, je jure de punir, je jure de tuer qui t'a tué. » Puis, avec désespoir, il crispa ses ongles dans ses cheveux en criant « Mais qui donc ? Qui donc ?» Alors, au fond de la pièce sombre, une tenture se souleva et une femme, rigide comme un fantôme, la bouche tordue d'une ironie furieuse, glissa jusqu'à Georges de Morlaine. Il la reconnut. C'était la vieille compagne de son père, c'était l'amie des temps passés, la servante qu'il avait bercée dans ses bras de nourrice. Il tendit ses bras vers elle, et Germaine, un doigt sur ses lèvres, se pencha vers Georges de Morlaine et lui dit d'une voix à peine perceptible « Ah, patience, mon fils, et patience. Ce soir, tu sauras tout. » Il la regardait, épouvanté de ce mystère qui surgissait en réponse immédiate à la question posée au cadavre. « Quoi, Germaine, tu sais ? Tout ? Et tu me désigneras le coupable ? Et tu le puniras ? J'ai juré. » « Va pleurer sur la tombe de ton père, » dit-elle encore. « Et ce soir, quand tous se seront endormis, je veillerai, moi. » Monsieur de Samreuil ouvrit discrètement la porte. Germaine avait disparu. Georges était plus blanc que le cadavre.